nous avons un certain nombre de jeunes qui ont grandi dans l'Église, qui sont soit adolescents ou jeunes adultes, et nous prenons parfois pour acquis ce qu'ils savent ou comprennent. Nous avons aussi de nouvelles personnes qui arrivent, et nous prenons pour acquis qu'elles comprennent les doctrines de l'Église. Et parfois, nous nous trompons parce que les membres ne connaissent pas les doctrines bibliques. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'étais à Kansas City, j'ai donné une étude biblique et j'ai fait un commentaire désinvolte, quelque chose à propos de l'Église qui avait été prise en charge par l'État de la Californie. Et j'ai été surpris lorsque j'ai regardé l'assistance. J'ai vu des visages qui semblaient ne pas savoir grand-chose à ce sujet. J'ai donc dit, « Combien d'entre vous ne savent pas que l'État de Californie a essayé de prendre le contrôle de l'Église? » Et toutes les mains se sont levées. Ils ne le savaient pas, même si c'était quelque chose que ceux d'entre nous qui sont plus âgés considèrent comme acquis, parce que nous en avons entendu beaucoup parler à l'époque. Ensuite, nous avons pensé que tout le monde savait tout sur le sujet et nous avons cessé d'en parler. Il y a donc des sujets que nous devons aborder de temps en temps, hein? Des sujets très fondamentaux. Celui que je vais aborder aujourd'hui est un sujet à propos duquel je vois même des membres de longue date s'égarer un peu et peut-être en oublier le fondement. Il s'agit de la marque de la bête. Le titre du sermon est donc « Qu'est-ce que la marque de la bête? » Comme nous le savons, il y a eu de nombreuses spéculations au fil des ans, et chaque nouvelle technologie apporte de nouvelles spéculations. Par exemple, il y a eu une époque que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui, où la carte de sécurité sociale ou le numéro d'assurance sociale fut considéré comme la marque de la bête parce qu'il avait trait à l'achat et à la vente et à l'obtention d'un emploi. Ma carte, qui montre à quel point je suis âgé, porte la mention « Ceci n'est pas destiné à des fins d'identification ». Cette mention a disparu il y a longtemps et je pense qu'elle fut retirée des nouvelles cartes. La carte est désormais utilisée à des fins d'identification pour toutes sortes de choses, emploi, carte de crédit, et autre chose que vous voulez obtenir, il faut donner votre numéro d'assurance sociale. Le Canada utilise un numéro d'assurance sociale dont l'acronyme en anglais est SIN, ce qui veut dire péché en anglais. Les gens pensaient que ce devait être la marque de la bête puisqu'il est question du péché. Puis les codes-barres sont apparus et tout le monde a sauté sur l'occasion, estimant qu'il s'agissait de la marque de la bête parce qu'elle figurait sur tout, de l'arrière du panneau d'arrêt à tout ce que vous achetiez à l'épicerie. Plus récemment, le code de réponse rapide, ce petit truc carré avec tous les points noirs et autres lignes dont on ne sait pas exactement ce qu'il dit, encore une fois, certains ont sauté sur l'occasion. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui pensent que le nombre 666 sera tatoué sur le front ou sur le dos de la main des gens. Beaucoup de confusion règne à ce sujet. Et combien de gens ont sauté sur le train de la théorie de la puce informatique, selon laquelle une puce informatique sera insérée dans votre main, peut-être entre le pouce et l'index. Là, ou sur le dos de la main, ou en plein milieu de votre front, quelque part, nombreux sont ceux qui pensent que c'est la marque de la bête. En réalité, ce que toutes ces choses ont en commun, c'est qu'elles ont quelque chose à voir avec l'achat et la vente. Je ne sais pas ce qui est du 666 sur votre front, mais les autres éléments ont quelque chose à voir avec l'achat et la vente. S'agit-il de la marque de la bête? Et nous devons reconnaître qu'il y a une différence entre les moyens de mettre en application ou de reconnaître la marque de la bête et la marque elle-même. Ceux qui sont dans l'Église depuis des décennies ont probablement une idée un peu différente de ce qu'est la marque de la bête, et cette doctrine n'a pas changé d'un iota. Certains s'accrochent à l'idée de la puce électronique, parce qu'il semble tellement plausible que les choses puissent être contrôlées de cette manière. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de jeunes qui grandissent dans l'Église, et 5 ou 10 ans peuvent faire une énorme différence. Nous en avons qui ont peut-être 12 ans. Je suis sûr que nous avons au moins un jeune de 12 ans ici. Et lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ou 17 ans, il y a une grande différence dans la pensée et la capacité de raisonnement. Je sais que Dieu a commencé à m'appeler quand j'avais, je crois, à peine 16 ans. J'aurais pu avoir 15 ans, j'ai toujours dit 16 ans. Mais en y repensant, j'avais peut-être encore 15 ans, bientôt 16. La première brochure que j'ai lue s'intitulait « L'Apocalypse, enfin dévoilée ». Elle a attiré mon attention. Mes parents n'étaient pas pratiquants, mais je me suis rendu compte, avec le recul, qu'un jeune de 16 ans peut comprendre énormément de choses. Il n'est pas nécessaire que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il peut travailler avec vous pour que vous puissiez comprendre les choses. Un jeune de 16, 17 ou 18 ans peut certainement comprendre ces choses, et peut-être même un jeune de 14 ou 15 ans, car j'en ai connu quelques-uns qui avaient 14 ans lorsque Dieu commençait à les appeler. Donc, si vous êtes un jeune, ici aujourd'hui, et je sais qu'il y en a beaucoup qui manquent à l'appel à cause de mariage, de vacances et ce genre de choses, ils l'entendront plus tard, mais j'espère que vous écouterez cette énigme que Dieu nous révèle, parce que vous pouvez savoir ce qu'est la marque de la bête. Et c'est, comme je l'ai dit, le sujet du sermon d'aujourd'hui. Je vais commencer par le 13e chapitre de l'Apocalypse, qui introduit ce sujet. Apocalypse 13. Et nous ferons de nombreux allers-retours entre l'Apocalypse et d'autres livres de la Bible. Commençons dans Apocalypse 13. Je ne lirai pour l'instant que les versets critiques au sujet de la marque de la bête. C'est ici que tout le monde commence à spéculer au verset 16. Apocalypse 13, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nom est 666. C'est donc de là que vient l'idée d'une marque de la bête. Elle est liée avec l'achat et la vente. Il y a quelque chose d'associé à la marque, au nombre 666, comme on le voit ici, et cela affecte la possibilité d'acheter ou de vendre. C'est donc très important pour comprendre ce que cette marque signifie. Et les gens se lancent dans des spéculations sur ce que pourrait être cette marque. J'aimerais commencer par quelque chose de très fondamental, quelque chose qui est presque universellement négligé, et c'est que la marque de la bête est la marque de la bête. Si elle ne vient pas de la bête, ce n'est pas la marque de la bête. Et c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, est presque universellement négligé, parce que les gens qui se lancent sur les numéros de sécurité sociale, les numéros d'assurance sociale, les codes-barres, les puces d'ordinateur, ne commence pas par le point le plus fondamental, et c'est que la marque doit être de la bête. Et si cela ne vient pas de la bête, ce n'est pas la marque de la bête. Nous commencerons notre étude ici et nous découvrirons alors qui est la bête, parce que sans comprendre qui est la bête, nous ne pouvons pas comprendre d'où vient la marque. Nous commencerons donc dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Je sais que ces passages nous sont très familiers, et que nous les abordons parfois dans des contextes différents. Je ne vais pas lire tous les versets de ces chapitres, mais ici, dans Daniel 2, nous savons que Nebuchadnezzar fit un rêve, et que ce rêve était très clair. C'était en technicolor, apparemment parce qu'il a vu de l'or, de l'argent, du bronze, ainsi que du fer et de l'argile d'apparence terne. Il les a donc vus selon leur couleur splendide. Ce n'était pas un rêve typique. Je suis sûr que Nebuchadnezzar ne consultait pas les sages chaque fois qu'il faisait un rêve. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je fais beaucoup de rêves ce jour-ci. Il y a un temps dans la vie où l'on dort si bien que l'on ne se souvient pas de nos rêves. Puis on vieillit un peu, et du moins pour moi, je m'en souviens un peu plus. Et ce sont, comme on le sait, des rêves un peu fous. Mais celui-ci était inhabituel. De toute évidence, Nebuchadnezzar a reconnu que ce rêve avait quelque chose de spécial. Étant sans doute superstitieux à plusieurs égards, il convoqua les sages, mais il avait peut-être aussi une autre raison, celle de purger certains d'entre eux. Il dit, « Vous devez me dire quel était le rêve avant de m'en donner l'interprétation, sinon vous pouvez l'interpréter de n'importe quelle façon. Et comment savoir si c'est la bonne? » Et le roi commença à faire mettre à mort les sages, et Daniel en fut informé. Il se présenta devant le roi et dit, « Je ne peux pas te donner l'interprétation, mais il y a un Dieu dans les cieux qui peut le faire. » Lisons Daniel 2, verset 31. Daniel commence par raconter au roi le rêve qu'il avait fait. « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc, cette statue a deux jambes, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Il y a deux jambes. Et pourtant, lorsque vous descendez jusqu'aux pieds, il y a une différence. Il y a cinq matériaux différents utilisés ici. L'or, l'argent, le bronze, le fer, et un mélange d'argile et de fer pour les pieds de la statue. Il dit au verset 35, « Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, permettez-moi de revenir en arrière, au verset 34, il dit, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, donc, supernaturellement, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. C'est donc là que la statue fut frappée pour être détruite sur ses pieds. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'or, l'argent furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emportant et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Et au verset 36, Daniel dit, « Voilà le songe. » Et Nabuchodonosor savait manifestement que c'était le rêve. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si vous aviez un rêve et que vous demandiez à quelqu'un de l'interpréter, voire de vous dire ce qu'il était, et que quelqu'un vienne vous dire ce qu'était le rêve? Je pense que l'interprétation serait très importante pour vous à ce moment-là, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous arrive par hasard. Verset 36, « Voilà le songe, et nous en donnerons l'explication devant le roi. » Verset 37, « Au roi, tu veux le roi des rois, que le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Et verset 39, « Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Il est donc important de le reconnaître. » Et je dis cela parce que les gens ont toutes sortes d'idées selon lesquelles ces quatre royaumes existent tous en même temps à la fin. Mais il dit, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. » Ce dernier empire a absorbé tous les autres. Il a détruit l'empire gréco-macédonien qui avait consumé l'empire médo-perse, qui avait consumé l'empire babylonien. Et ce quatrième empire les consomme tous, les détruit tous dans un sens. Verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé. » Mais il y aura aussi quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Les jambes sont donc en fer, mais lorsque vous arrivez au pied, il est dit que c'est un point faible de la statue. Elle est fragile. Elle a encore une grande force dans les pieds, mais ils sont aussi fragiles et cassants. Verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. C'est un autre indice qu'ils vont s'allier à la façon humaine, à des pays différents, à des ethnies différentes, à des gens de lieux différents qui ne s'entendent pas toujours très bien. Et il est dit, « Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils ne s'unissent pas naturellement les uns aux autres, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Verset 44, « Dans le temps de ces rois, Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Vous pouvez lire le reste du chapitre. Il est très clair qu'il est question de l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre, de la venue du Messie, de la seconde venue du Christ. La statue commence avec Nebuchadnezzar et se poursuit jusqu'à la venue du Christ. Cela concerne donc ceux d'entre nous qui sont ici aujourd'hui, car ce rêve contient une partie qui va se dérouler aujourd'hui et aussi dans notre avenir. Allons à Daniel 7. Dans ce chapitre, Dieu donne une révélation progressive concernant ces quatre royaumes. Daniel 7, et au verset 1, nous constatons que nous sommes encore à l'époque de Babylone. C'est la première année de Belshazzar, roi de Babylone, donc encore au début de ce premier royaume. Et il est dit que Daniel eut un songe, et des visions se présentèrent à son esprit alors qu'il était sur son lit. Et il consigna ensuite le rêve par écrit en relatant les faits principaux. Là encore, Daniel dut reconnaître qu'il ne s'agissait pas d'un rêve normal, mais vraiment inhabituel. Et ce n'est pas quelque chose qui se produit normalement lorsque nous nous couchons le soir. Au verset 2, Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer, la mer Méditerranée, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais dans l'Empire babylonien, il y avait des comparaisons avec les aigles, et nous trouvons ici que le cœur d'un homme y était attaché. Et nous pouvons lire le quatrième chapitre de Daniel, comment Nebuchadnezzar a dû être humilié, et après 7 ans, un cœur d'homme lui fut donné à nouveau, pour ainsi dire. Et verset 5, « Et voici, un second animal était semblable à un ours qui se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais au verset 6, et voici, un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Nous avons donc la première bête qui a une tête, la deuxième bête qui a une tête, et maintenant nous arrivons à la troisième bête, et elle a 4 têtes. Cela fait donc un total de 6 têtes. Puis nous lisons au verset 7, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, rappelant les jambes de fer de la statue. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici... Une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Lorsque nous examinons l'ensemble de ce chapitre, nous constatons que nous commençons à avoir une description qui avance dans le temps jusqu'au couronnement du roi des rois à la toute fin. Verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit. » Puis il y a une description de cet être. Verset 10, « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Cela introduit donc quelque chose ici. Les versets 11 et 12 reviennent à ce que Daniel faisait, et il dit, « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Cela nous ramène à la vision qu'il eut. Verset 13 nous dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un d'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. Il s'agit en fait du couronnement. Le Christ s'est qualifié au cours de sa vie. Et pourtant, Dieu n'a pas supprimé Satan. Mais un temps viendra où Satan sera destitué, et le Christ recevra le royaume et reviendra sur terre. » Vous pouvez comparer ceci avec le chapitre 19 de Luc, où il est question d'un maître qui va dans un pays lointain pour recevoir un royaume et ensuite revenir. Verset 15, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-delà de moi, et les visions dans ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. » N'est-il pas intéressant de constater que Dieu interprète ses propres symboles? Il donne toutes ces choses symboliques, que ce soit la statue d'un homme avec une tête d'or et ses pieds de fer et d'argile, ou que ce soit ses quatre bêtes. Dieu donne ces symboles et il les explique ensuite. Et pourtant, si souvent, les gens lisent ces versets et en tirent leurs propres conclusions selon leurs propres idées. Verset 17, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Le verset 23 dit, un quatrième royaume, dont roi au royaume étant utilisé ici de manière interchangeable, il s'agit donc de quatre grands royaumes qui existent sur la terre. Nous savons maintenant quel est le point final, c'est-à-dire la venue du Messie ou du Christ, sa seconde venue. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons maintenant commencer à voir que nous parlons des mêmes rois au royaume qui sont décrits dans Daniel 2. Si nous arrêtons ici et que nous allons au chapitre 8 de Daniel, nous voyons une autre vision qui se déroule pendant le règne de Babylone. Daniel 8, verset 1, « La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Il s'agit d'un bélier et d'un bouc. Il décrit ce qui se passe, comment le bouc arrive avec une corne et piétine le bélier. Nous en trouvons l'interprétation dans la dernière partie du verset 17. « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin, le futur. » Verset 19, « Un temps marqué pour la fin, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Java, Grèce. » Il décrit ensuite comment l'Empire grec aurait une grande corne, puis elle serait brisée par quatre cornes qui s'élèveraient à sa place. Et nous constatons qu'il parle de la même chose. Cela représente aussi la deuxième et la troisième bête. La troisième bête étant l'Empire gréco-macédonien. La grande corne représente Alexandre le Grand, qui traversa la terre comme s'il ne touchait même pas le sol. Nous avons tous appris cela à l'école. Je dis cela, mais je ne sais pas. Ce n'est probablement plus vrai aujourd'hui, mais l'histoire raconte qu'Alexandre le Grand a conquis le monde si rapidement qu'il pleura parce qu'il n'avait plus rien à conquérir. Oui, il y avait beaucoup de terres non conquises, mais c'est ainsi que les anciennes histoires le dépeignaient. Quoi qu'il en soit, cette conquête se fit très rapidement. Ainsi, lorsque nous regardons ces quatre bêtes dont parle Daniel 7, elles sont identiques au royaume de Daniel 2. Et le deuxième et troisième royaume se trouve dans le huitième chapitre de Daniel. Et nous pourrions même aller jusqu'au onzième chapitre et lire les intrigues qui s'y déroulent. Mais il s'agit d'un aperçu de l'histoire selon laquelle il y aurait quatre royaumes en commençant par Babylone. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres royaumes ailleurs. Il y eut la Chine, par exemple, les Aztèques et d'autres en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Mais d'un point de vue biblique, nous parlons de royaumes qui eurent un impact sur Israël, et cela aura une grande influence sur toute la terre. Il parle de ces quatre royaumes, Daniel 7, verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Nous voyons clairement que ce quatrième royaume durera jusqu'à la fin. Alors je voulus savoir ce qu'il en était de la quatrième bête, différente de toutes les autres, extrêmement redoutable, avec des dents de fer et ses ongles d'airain qui dévoraient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait, et les 10 cornes qui étaient sur sa tête. Et l'autre corne qui s'était élevée et devant laquelle 3 étaient tombées, c'est-à-dire la corne qui avait des yeux et une bouche, qui prononçait des paroles pompeuses et dont l'aspect était plus grand que celui de ses compagnes. Je regardai, et cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne, qu'un jugement soit rendu en faveur des saints du Très-Haut, et que le temps soit venu pour que les saints possèdent le royaume. Il est donc très clair que cela continue jusqu'à la fin. L'histoire ne s'arrête pas là. Le verset 26 dit que la cour de jugement est assise et est prête. Et le verset 27 dit que le règne, la domination et la grandeur de tous ces royaumes seront donnés au sein du Très-Haut. Allons plus loin dans les Écritures, car Dieu nous en révèle davantage au fur et à mesure que nous avançons. Le livre d'Apocalypse rassemble beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de symboles, beaucoup de prophéties, et les présente dans un certain ordre pour que nous puissions les comprendre. Nous allons dans Apocalypse 12, au verset 18, « Et il se tint sur le sable de la mer, décrivant l'ange qui parlait à Jean. » Je lisais la brochure de M. O'Gwynn sur la bête de l'Apocalypse. Il a dit que l'ange se tenait sur le bord de la mer, sur le sable, et je me suis dit, « Oh, je me demande s'il y avait du sable à Patmos, y avait-il beaucoup de sable là-bas? » Et pourtant, c'est ce que disent les Écritures. Certains de ces petits détails nous échappent parfois. Je ne sais pas si cela a une quelconque importance, mais c'est un détail qui nous est donné. Apocalypse 13, verset 1, « Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. » Il y a là quelque chose d'intéressant, car nous pouvons regarder en arrière dans Daniel 7, et nous y trouvons le lion, l'ours et le léopard. Quelle est donc la signification de tout cela? Eh bien, lorsque ces visions ont été données dans le livre de Daniel, c'était à l'époque du premier roi, du premier empire, Babylone. Or, Jean écrit vers la fin des années 90 après Jésus-Christ. Et Babylone avait déjà été absorbée par l'Empire médo-perse et l'Empire gréco-macédonien. Alexandre le Grand et ses quatre généraux ont ensuite absorbé l'Empire médo-perse. Puis l'Empire romain les a tous absorbés. La seule bête encore en vie à l'époque de Jean est la quatrième bête. C'est pourquoi Jean ne revient pas sur les précédents empires. Il voit simplement une combinaison de toutes ces bêtes, une bête composée qui a le territoire et les caractéristiques du lion, de l'ours et du léopard. Au verset 3, il est dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. » Ce que Jean vit sur cette bête était 7 têtes et 10 cornes. Rappelez-vous qu'il y avait 7 têtes sur les 4 bêtes dont nous avons parlé dans le 7e chapitre de Daniel. Les têtes et les caractéristiques de ces bêtes sont donc combinées. L'une des têtes a une blessure mortelle. Toutes les autres avaient disparu. L'implication ici est que cette tête était la dernière bête, l'Empire romain. Et il est dit que la blessure mortelle fut guérie. ce n'était pas la blessure mortelle de l'Empire Médo-Perse ou de l'Empire Babylonien ou autre, c'était la blessure mortelle de l'Empire Romain, une plaie mortelle, mais elle fut guérie. Apocalypse 13, verset 3. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Il y a quelques années, certains ont émis l'hypothèse qu'il devait s'agir des États-Unis, que les États-Unis étaient la bête. Je ne sais pas combien d'entre vous ont entendu cela, mais moi, je l'ai certainement entendu. Et bien qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles les gens disent que les États-Unis soient la bête, la principale raison est ce petit bout de verset disant « Qui peut combattre contre elle? » Si l'on se réfère à la première et la deuxième guerre du Golfe, on se rend compte que les États-Unis sont une force très puissante dans le monde, qu'il s'agisse d'armes conventionnelles ou nucléaires. Les États-Unis sont prééminents dans le monde. Même les Chinois, dont l'armée s'est considérablement développée, ne veulent pas s'attaquer aux États-Unis. Pas plus que la Russie ou d'autres pays. C'est pourquoi, sur la base de ce seul fait, les gens ont conclu que les États-Unis doivent être la bête. Pourtant, lorsque nous examinons l'histoire de la bête, nous constatons qu'elle se trouve au Moyen-Orient et dans la région méditerranéenne. Nous constatons aussi qu'il y a une petite corne qui est décrite comme parlant avec arrogance, et cela jusqu'à la fin. En d'autres termes, nous devons regarder la situation dans son ensemble et ne pas sauter à une conclusion ridicule. Je suis sûr que des gens trouvent raisonnable de penser que les États-Unis soient la bête, mais il ne faut pas se baser sur le fait que les États-Unis soient capables de faire la guerre. On pourrait revenir quelques années en arrière et regarder l'Empire britannique. Qui était capable de leur faire la guerre à cette époque? Eh bien, Dieu a donné aux États-Unis la capacité de faire la guerre à l'Empire britannique. Mais lorsqu'on regarde vraiment l'histoire, on se rend compte qu'il s'agissait d'une question délicate et qu'il a fallu environ 8 ans pour régler ce problème, et qu'ils ont dû traverser l'océan de part en part. Nous étions sur notre propre territoire, la Grande-Bretagne était une force puissante, et on aurait pu se demander qui était capable de lui faire la guerre à cette époque-là. Au cours de l'histoire, il y a eu d'autres pays, si on les considère sur une période de temps très courte, qui auraient pu aussi être considérés imbattables, comme l'Allemagne au début de la Seconde Guerre mondiale. Verset 5 dit « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Une blessure mortelle est donc infligée à cette tête, mais elle reçoit le pouvoir de continuer pendant 42 mois. Or, 42 mois, si vous les multipliez par ce que nous appelons une année prophétique, c'est-à-dire 30 jours par mois, tel qu'indiqué dans un certain nombre de passages bibliques, cela donne 1260 jours. Nous connaissons tous le principe d'un jour pour une année. Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6 nous montrent que parfois, en particulier dans un sens prophétique, un jour peut équivaloir à une année. Ainsi, la blessure mortelle est guérie. Elle le sera soit pendant 1260 jours, 3 ans et demi, ou soit pendant 1260 ans. Nous devons donc examiner le contexte et l'histoire pour connaître la réponse à cette question. Lorsque nous regardons l'histoire, nous constatons que l'Empire romain reçut une blessure mortelle en 476 après Jésus-Christ, date sur laquelle les historiens sont d'accord. Les nations ne s'effondrent pas toujours en un seul jour, mais 476 après Jésus-Christ était vraiment la fin. Et cela a continué pendant un certain nombre d'années sans qu'il y ait de pouvoir romain. Vous pouvez lire la brochure de M. John O'Gwin sur la bête de l'Apocalypse pour savoir ce qui s'est passé avec les 3 cornes qui sont arrachées dans Daniel 7. Je vous encourage tous à lire ou à relire cette brochure, surtout si vous ne l'avez jamais lue. Si vous êtes un jeune ou un nouveau à l'Église, lisez cette brochure et étudiez-la en même temps que Daniel chapitre 2 et 7 ainsi qu'Apocalypse chapitre 13 et 17, et vous vous familiariserez et comprendrez mieux ces choses. Nous avons vu que l'Empire romain continua pendant 42 mois. Nous savons aussi qu'en 554, Justinien relança l'Empire romain une fois de plus, et ce à la demande du pape, sous sa bénédiction, la soi-disant Église chrétienne de l'époque. C'était en 554 après Jésus-Christ. Ensuite, il y eut des renaissances de l'Empire romain sous Charlemagne, Otto le Grand et Charles Quint, et plus récemment Napoléon, qui tomba en 1814. Napoléon est revenu un peu après, mais Waterloo fut la fin. Essentiellement, son règne se termina en 1814. Si l'on prend 1814 et que l'on soustrait 554, date à laquelle Justinien a relancé l'Empire romain, il y a 1260 ans. Il était appelé le Saint-Empire romain jusqu'à cette époque parce que l'Église le contrôlait à bien des égards. Un certain nombre de rois ont découvert à quel point l'Église ou le pontife était puissant à l'époque. Il y avait beaucoup d'histoires à ce sujet. En fin de compte, il y eut 5 restaurations de l'Empire romain pendant cette période, de 554 à 1814 après Jésus-Christ, en 1260 ans, comme il est dit dans l'Apocalypse. Ces restaurations se poursuivirent pendant 42 mois ou 1260 ans. Revenons maintenant à Apocalypse 13, versets 6 et 7. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Lorsqu'il est question de toute tribu, de toute langue ou de toute nation, ce que nous constatons ici, c'est qu'il fait la guerre aux saints. Quand nous regardons ce ou qui a persécuté les saints à travers l'histoire, n'est-ce pas l'Empire romain sous une forme ou une autre? Et le verset 8 nous dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voici donc un agneau avec deux cornes, mais qui parle comme un dragon. Cette bête ressemble au Christ. Le Christ est l'agneau de Dieu. Elle ressemble au Christ, mais elle parle comme le dragon. En d'autres termes, c'est une contrefaçon. On pourrait dire que c'est un loup déguisée en brebis. Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Cette bête représente donc quelqu'un qui a de grands pouvoirs miraculeux. Verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. » Si nous regardons cela d'un point de vue historique, nous voyons qu'à l'époque du Saint-Empire romain, de 554 à 1814, lorsque l'Église catholique avait un grand pouvoir, elle opérait beaucoup de signes, beaucoup de « miracles », entre guillemets. Vous savez, des mains qui saignent. Encore aujourd'hui, on invente certaines de ces choses. Ils utilisaient des signes pour tromper les gens et ils persécutaient la véritable Église de Dieu. Ils livraient les membres à l'État qui les torturait et ou les tuait. Nous avons entendu parler de l'Inquisition ou de l'Inquisition espagnole. Du moins, quand j'étais enfant, nous avons entendu parler de l'Inquisition espagnole. Il y a un livre que je n'ai pas lu à ce sujet Don Quichotte, mais j'ai vu la pièce de théâtre L'homme de la Mancha. C'était à l'époque de l'Inquisition espagnole. Il est intéressant de noter que c'était une époque terrible pour les saints de Dieu, où une église, se disant chrétienne, persécutait ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, ceux qui observaient la loi de Dieu, qui n'observaient pas le dimanche, ni toutes les autres doctrines qu'elle enseignait, ceux qui ne baptisaient pas leurs enfants, et ainsi de suite. Cette fausse église, cette bête à deux cornes, persécutait la véritable église de Dieu. Ils firent une image de la bête, de la première bête. L'Église catholique a donc modelé son gouvernement sur la première bête, l'Empire romain. Et si vous regardez comment ils ont fait, ils ont élu leurs dirigeants. Aujourd'hui, l'Église catholique, par exemple, s'est inspiré des empereurs romains. Bien qu'il s'agisse de dictateurs, ils étaient en quelque sorte élus par le Sénat. La situation est donc très similaire. Verset 15. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et c'est là que nous trouvons la déclaration au sujet de la marque de la bête. Ce que nous voyons ici, c'est cette bête qui existe à travers l'histoire. Allons maintenant à Apocalypse 7 et avançons un peu plus loin dans l'avenir. Ce que nous trouvons au chapitre 17, c'est la bête après la guérison de sa blessure mortelle. Remarquez que cette bête est montée par une femme. Alors qu'avant qu'elle ne reçoive sa blessure mortelle, soit jusqu'en 476, elle n'était pas contrôlée par une femme. Il y avait certainement une interaction entre la femme et l'Empire romain, mais ce n'est qu'après 554 que la femme a chevauché la bête. La bête dont il est question ici est donc montée par la femme. Nous obtenons donc plus de détails sur ce qui se passe. Apocalypse 17, verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Que sont les eaux? Si vous regardez le verset 15, il est dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » La Bible donne donc, encore une fois, une description ou une explication de ses propres symboles. Cette femme commet l'impudicité avec les habitants de la terre. Versets 2 et 3, « Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Nous voyons donc maintenant cette bête et cette femme qui la chevauche. » La femme ne montait pas les bêtes précédentes, elle monte cette bête. Et comme nous le verrons ici, il s'agit de la bête à partir de 554 après Jésus-Christ. La femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et d'or. Nous remarquons les vêtements même de la femme. Si vous allez sur Internet et que vous cherchez ce que portent les prêtres catholiques, vous constaterez que le pourpre et l'écarlate sont utilisés à maintes reprises dans la description de leurs vêtements. Versets 4 et 5. Cette femme était revêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est une grande église mère. C'est une mère qui a donné naissance à des filles prostituées. Vous savez, il est vraiment difficile de lire ceci et de ne pas comprendre de quoi il s'agit. J'en ai parlé récemment à Winnipeg et j'ai été très, très explicite. Puis l'une des questions qui fut posée était la suivante. Qui est cette grande prostituée et qui sont les filles de la prostitution? Ce que j'avais dit leur était passé par-dessus la tête. Je suppose qu'ils avaient peut-être besoin que cela soit encore plus explicite. Verset 6, « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Cette femme, cette Église, a donc provoqué la mort des saints de Dieu. Elle ne l'a pas fait elle-même, mais elle les a confiés à l'État pour qu'ils fassent le sale boulot. Verset 7. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Cela nous indique quelque chose au sujet du moment de la compréhension de ces versets. Il est question d'une bête qui était, mais qui n'est plus, et qui pourtant existe. Il faut se demander à quel moment de l'histoire cela s'est-il produit. Eh bien, c'était certainement après 1814. De 1814 à aujourd'hui, cela a dû se produire à un moment donné, car tout le monde pensait que la fin du Saint-Empire romain était en 1814. Il est intéressant que M. Armstrong a été appelé et utilisé par Dieu pour commencer à expliquer ses prophéties au début ou au milieu du siècle dernier. C'est à ce moment-là que M. Armstrong a compris ce que voulaient dire ces versets, à une époque où la bête qui était et qui n'est plus et qui est encore était présente. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Rome est assise sur 7 collines, des collines ou des montagnes. En fait, lorsque nous avons voyagé dans cette ville il y a quelques années, notre guide nous a parlé de toutes les églises païennes qui sont devenues des églises chrétiennes. Il y a la colline numéro 2, la colline numéro 3 et la colline numéro 5, reconnaissant ainsi les très célèbres 7 collines de Rome. Recherchez-le sur Internet et vous les trouverez. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, mais ces montagnes ont une plus grande signification, comme le montre le verset suivant, verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, et l'autre n'est pas encore venu. Ainsi, très clairement, les 5 qui sont tombés au cours de cette période de 1260 ans. Commençant avec Justinien et se terminant avec Napoléon. Et j'espère que vous prendrez le temps de lire notre brochure « La bête de l'Apocalypse, métaphore ou réalité à venir » qui montre exactement quelles résurrections de l'Empire romain sont apparues à quelle époque, et elle entre dans tous les détails. Verset 10, « 5 sont tombés, 1 existe ». Là encore, il s'agit d'un indice sur la date à laquelle cela commencerait à être compris, parce que le texte est écrit d'un point de vue où 5 sont déjà passés. Verset 10, « Un existe et l'autre n'est pas encore venu. » Ainsi, l'axe Hitler-Mussolini représente celui qui existe, car il était présent sur la scène mondiale au temps où M. Armstrong comprit cette prophétie. Puis, il y a l'autre qui n'est pas encore venu. Il est encore à venir. Et lorsque nous regardons cela, nous devrions être très confiants, sachant que ce sera dans l'avenir. Il y aura une autre résurrection de l'Empire romain. Jusqu'au moment de la guerre en Ukraine, l'Allemagne était très pacifiste. Et elle l'est encore à bien des égards. Mais une transformation est en train de s'opérer. En fait, une transformation s'est produite dans les heures ou les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine. Ainsi, 100 milliards d'euros ont été consacrés à la reconstruction de l'armée, en plus des 2% du PIB alloué. Il y a des choses qui se passent à ce moment même dont nous ne comprenons pas pleinement les effets. La semaine dernière, nous nous sommes réveillés en réalisant que le groupe Wagner marchait vers Moscou. Et par le temps que l'assemblée de Saba soit terminée, tout avait pris fin. Nous ne connaissons pas encore les retombées de cette décision, et nous ne savons pas exactement comment cela se passera là-bas. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une guerre en Europe, et que toute guerre en Europe rendra toutes les autres nations nerveuses. et nous risquons d'avoir de vraies surprises. Nous connaissons les grandes lignes de l'histoire, mais nous ne savons pas exactement comment cela se déroulera. Ainsi, comme je l'ai déjà dit et je le répète, attendez-vous à des surprises, à des événements que nous n'aurions pas anticipés, comme la guerre contre l'Ukraine, qui est en quelque sorte sortie de nulle part, non pas qu'elle ne soit pas visible pour ceux qui examinent vraiment les faits, mais elle a semblé sortir de nulle part, tout comme le COVID a semblé sortir de nulle part. Il est vrai que l'on parlait de quelque chose en Chine, mais tout se passait bien et tout d'un coup, cela a frappé de plein fouet le monde entier. D'autres surprises se produiront. Mais il est dit que 7 rois sont représentés par ces 7 montagnes. Il est aussi dit de ces 7 rois, 5 sont tombés, 1 existe. Et celui qui existe est désormais chose du passé. Versets 10 et 11. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Monsieur O'Gwin explique cela dans sa brochure. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Les 10 cornes de cette bête ne représentent donc pas une succession d'empires, mais 10 rois qui, à la toute fin, céderont leur pouvoir à cette bête. Cette 7e restauration ou renaissance de l'Empire romain sous le règne d'une femme qui le chevauche. Versets 13 et 14. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Nous voyons donc que cet empire durera jusqu'à la toute fin. Il y aura 10 rois. Puis, comme il est écrit dans Daniel chapitre 2, le Christ, à son retour, frappera la statue sur ses pieds de fer et d'argile et la détruira. Que voyons-nous aujourd'hui? Nous voyons qu'en Europe, ils n'arrivent pas à s'unir. Parce que les Français et les Allemands sont différents. Les Tchèques et les Polonais sont des peuples différents. Ils ont des antécédents différents, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils s'efforcent de le faire depuis le début des années 50 avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est une alliance de 6 pays. La Belgique, l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils se sont développés, mais ils n'ont pas réussi à s'unir. Mais quelque chose va les amener à s'unir. Ce sera sans aucun doute un groupe très intéressant de nations qui s'uniront. Certaines pourraient être antagonistes ou ennemies à l'heure actuelle, mais pourraient soudain faire d'étranges alliances dans un but plus grand. Ils finiront par faire la guerre à l'agneau. Nous savons que d'autres choses vont se produire. Nous lisons aussi ailleurs dans l'Apocalypse qu'il y aura une guerre entre l'Est et l'Ouest, et ainsi de suite, et entre le Nord et le Sud. Nous lisons dans ce livre et dans le livre de Daniel qu'il y aura un certain nombre de guerres, un certain nombre d'escarmouches, dont certaines très sérieuses. Néanmoins, à un moment donné, dans l'avenir, ils se battront ensemble contre le Christ lors de son retour. Le verset 16, « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Il y a toujours eu un antagonisme entre le pouvoir séculier et le pouvoir religieux. Le verset 17 et 18, « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » C'est une ville à la fois civile et religieuse, les 2 cornes. C'est une cité-État. Elle règne sur les rois de la terre. Si vous vous rendez au Vatican aujourd'hui, vous verrez les drapeaux de toutes les nations du monde entier qui ont une ambassade au Vatican. Nous avons donc vu toutes ces choses dans un seul but, celui d'identifier qui est la bête. Car sans savoir qui est la bête, nous ne pouvons pas savoir quelle est la marque de la bête. C'est un point essentiel. Nous savons que Satan est le maître de la contrefaçon. Il copie ce que Dieu fait avec un petit changement. Comme nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, on est familier avec ce passage, 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Lorsque nous parlons du soi-disant christianisme, il arrive que des gens se disent « au moins ils croient en la Bible ». Pourtant, Dieu ne parle pas d'eux avec beaucoup de gentillesse, il les appelle les filles de la prostituée, il les appelle la grande prostituée. Ces gens sont séduits, et beaucoup d'entre nous étions également séduits auparavant, nous ne jetons donc pas la pierre. Nous ne faisons qu'examiner les faits. Verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il ne se présente pas comme étant le diable. Il apparaît comme un ange de lumière. Il apparaît comme un agneau. Le verset 15, « Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous savons que ceux qui prennent la marque de la bête verront la colère de Dieu s'abattre sur eux, et nous y reviendrons dans un instant. Satan est un grand faussaire. Maintenant, puisque la Bible interprète ses propres symboles, si nous voulons savoir ce qu'est la marque de la bête, nous devons premièrement trouver dans les Écritures, comment Dieu se réfère à une marque ou à un signe? Dans Exode 31, versets 13 et 14, Exode 31, versets 13 et 14, nous lisons, verset 13, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » C'est ce que Dieu pensait d'eux à l'époque. Ceux de la nation d'Israël qui profaneraient le sabbat seraient mis à mort. Nous avons lu un incident au cours duquel un jeune homme fut mis à mort pour cette raison. Mais qu'en est-il de la main et du front? Qu'en est-il de ce qui est dit dans Apocalypse 13 à propos de quelque chose qui est marqué sur la main et sur le front? Encore une fois, nous pourrions arriver à toutes sortes de conclusions ou chercher une sorte d'indice en regardant les événements actuels. Mais si nous faisons cela, nous ferons la même erreur que ceux qui pensaient que le numéro de sécurité sociale était la marque de la bête, ou que la carte d'assurance sociale était la marque de la bête, ou même que les cartes de crédit étaient la marque de la bête, car certains pensaient que sans elles, nous ne pourrions ni acheter ni vendre. La réalité est que nous pouvons encore acheter et vendre. Ces gens cherchaient la marque de la bête. D'autres cherchent la marque de la bête dans des puces implantées dans la main. Vous savez, nous n'avons pas besoin de puces dans la main pour être identifiés. Une femme et sa fille se rendaient au Metropolitan Rockefeller Center ou ailleurs au cours de l'année dernière et on lui a interdit d'entrer. Pourquoi? Parce qu'elle était avocate et travaillait pour un cabinet d'avocats qui poursuivait la compagnie en question. Et ils l'ont reconnue grâce à l'identification faciale. Je ne sais pas si nous nous rendons compte que l'identification faciale est déjà utilisée. Si vous voulez obtenir une carte qui vous permettra de traverser l'aéroport plus rapidement, vous pouvez utiliser un scan de votre œil. Lorsque j'étais en Angleterre, on prenait toujours nos empreintes digitales à chaque fois que l'on entrait. Il existe donc toutes sortes de moyens de connaître notre identité. Il n'est pas nécessaire de mettre une puce dans notre main. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Ils peuvent lire votre visage. C'est ce qui se passe dans certaines régions de la Chine, et on en parle beaucoup de cette possibilité. Donc, le moyen par lequel nous serons reconnus et par lequel ils sauront ce que nous faisons existe déjà. Et nous n'avons pas besoin de spéculer à ce sujet. Ce que nous devons découvrir, ce n'est pas la manière ou les moyens par lesquels la marque sera mise en application, mais ce qu'est la marque elle-même. Qu'est-ce qu'est la marque de la bête? Qu'est-ce qui déclenchera un problème dans le monde? Et plus précisément, qu'est-ce qui causera un soulèvement en Europe? Eh bien, si nous allons au 13e chapitre de l'Exode, nous pouvons voir que Dieu interprète ses propres symboles. Et c'est Dieu qui va nous dire exactement quel est ce signe. Dieu a un signe pour son peuple, comme nous l'avons déjà vu dans Exode 31. Nous allons maintenant à Exode 13, verset 7. Et parlant des pains sans levain, au verset 7, « On mangera des pains sans levain pendant 7 jours, et on ne verra point chez toi de pain levé, et on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. » Au verset 9, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Vous voyez, c'est ainsi que Dieu définit un signe sur notre main et entre nos yeux ou sur notre front. C'est un symbole qu'il a utilisé très tôt dans l'histoire. Nous devrions donc laisser Dieu déterminer ce que cela signifie. Maintenant, Dieu voulait-il que nous marquions les pains sans levain, le sabbat ou quoi que ce soit d'autre sur nos corps? Littéralement, le mettre sur notre front ou sur le dos de nos mains, nous savons que les Juifs faisaient certaines de ces choses. Ils avaient de petites boîtes avec les commandements dedans et une petite lanière de cuir avec laquelle ils les attachaient sur le dos de leurs mains. Mais est-ce de cela que Dieu parle ici? Eh bien, le front représente l'intellect, la prise de décision. La main symbolise le travail, ce que nous faisons. Nous lisons verset 9, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Et verset 16, « Ce sera comme un signe sur ta main et comme un fronteau entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Nous pourrions ensuite aller au Deutéronome, au 6e chapitre. C'est la définition biblique de ce qui est écrit sur le front ou sur la main. Il s'agit des lois de Dieu. Ainsi, dans Deutéronome 6, verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Quels commandements? Eh bien, au 5e chapitre, les 10 commandements viennent d'être répétés. Versets 7 et 8, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Dieu dit donc ici que ce sont ses commandements, ces sabbats, ces jours saints, qui doivent être sur notre front et sur nos mains. Veut-il qu'ils soient littéralement attachés d'une manière physique? Peut-être ne devrais-je pas dire littéralement, mais physiquement, ou est-ce un symbole de quelque chose? Rappelez-vous, Satan est un grand faussaire. Et dans Daniel 7, verset 25, Daniel 7, verset 25, il est dit ceci au sujet de cette petite corne, cette corne qui travaille avec la bête. Il prononça des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Les temps et la loi. Qui a dit avoir une meilleure journée d'adoration que celle commandée par Dieu? Dieu est vraiment bon et il a obtenu 9 sur 10, n'est-ce pas? Et pour les catholiques, seulement 8 sur 10, parce qu'ils se débarrassent du commandement sur l'idolâtrie. Qui a changé la loi? Qui a dit que nous devions observer des jours différents? non seulement le sabbat, mais aussi Noël, rejetant les jours saints de Dieu et les remplaçant par des jours issus du paganisme le plus pur. La marque est un signe de désobéissance. Nous savons, d'après diverses écritures, que la colère de Dieu s'abattra sur ceux qui désobéissent. Colossiens 3, versets 5 et 6. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui en est une idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est sur eux que s'abat la colère de Dieu. Romains 1, 18 dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. » Puis dans Apocalypse 14, verset 9, « Et un autre, un troisième ange, l'y suivit en disant une voix forte. Il s'agira donc d'un témoignage pour l'humanité à la toute fin. » Verset 9, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu. » Verset 100 mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Il continue en disant, « Et quiconque reçoit la marque de son nom, qu'il l'adore, et ainsi de suite. » Cette marque de la bête est donc un signe de désobéissance, et c'est sur eux que la colère de Dieu s'abattra. Dieu a un signe qui identifie son peuple. Et ensuite, Satan arrive, le grand faussaire, et il utilise aussi un signe. Dans ce cas, il s'agit d'une marque, quelque chose qui est dicté et imposé aux gens. Dieu nous laisse prendre la décision d'observer ou non le sabbat. Mais Satan arrive et il dit, « J'ai un autre jour et je peux l'imposer. » Vous pouvez lire dans la brochure de M. O'Gwin comment Constantin a changé le jour d'adoration en l'an 321. Il l'a appelé le Vénérable Jour du Soleil. J'aimerais prendre un moment pour lire un extrait de cette brochure. Je vais lire un extrait parce que nous y découvrons ce qu'est le culte du soleil, qui est à l'origine de l'adoration le dimanche. La raison pour laquelle on l'appelle ainsi était endémique dans ces grands empires du passé. À la page 29, il dit « La marque de la bête est un signe de désobéissance à Dieu, mais cela implique non seulement le rejet du signe d'obéissance à Dieu, le sabbat, mais aussi l'acceptation d'une marque ou d'un signe contrefait. Cette marque est, en réalité, un signe dérivé de Babylone et de Rome. Y a-t-il un symbole qui ait parcouru toutes les époques jusqu'à nos temps modernes? Dans l'ancienne Babylone, les rois servaient comme hauts sacrificateurs du soleil, Bel-Marduk. Prendre la main de Bel-Marduk faisait partie de la cérémonie de prise de fonction comme roi en Assyrie et à Babylone. La célébration du solstice d'hiver autour du 25 décembre était considérée comme la naissance du soleil. C'était un jour saint majeur associé avec une distribution de cadeaux et un arbre vert sacré. Il n'y a pas que chez les Babyloniens où l'adoration du soleil fut impliquée dans les rites païens. Cela se retrouve également dans les rites de tous les successeurs de Babylone, chez les Perses, puis chez les Hellénistes et à Rome. En fait, pour chaque époque correspondant à l'une des quatre bêtes de Daniel, l'adoration du soleil a joué un rôle prééminent dans la religion impériale. La Perse fut le premier successeur de Babylone. L'ancienne religion perse était centrée sur l'adoration de Mithra, le dieu de la lumière. Sous l'influence babylonienne, Mithra fut ensuite identifié comme le dieu soleil babylonien. Les Grecs d'Asie mineure identifièrent Mithra à leur ancien dieu soleil, Hélios. Et ils contribuèrent à répandre le culte du soleil vers l'ouest. Alexandre le Grand voyagea en Égypte jusqu'au temple d'Amon-Ra, où les prêtres le proclamèrent fils littéral du soleil. Et qu'en est-il de Rome? Mithra, identifié à Sol Invictus à Rome, était celui qui donnait l'autorité et la victoire à la maison impériale. Le Lamprey's Classical Dictionary déclare que Sol, le dieu soleil de Rome, était adoré comme Baal, ou Bel chez les Chaldéens, ou Babyloniens. L'Empire romain adopta l'adoration du soleil et ses symboles de ses prédécesseurs et le propagea dans tout le monde occidental. Fin de la citation. Pensez-y. Lorsque vous voyez de l'or, que voyez-vous? Vous voyez cette auréole? Ce halo autour de la tête des gens, c'est un symbole du soleil. L'art, dans toute l'histoire romaine, et même avant, remonte à l'adoration du soleil. Dieu a son jour, le sabbat. Nous ne l'appelons pas le jour de Saturne, comme il s'appelle en anglais. Mais Dieu a mis à part le septième jour. Satan est arrivé avec sa contrefaçon, un jour impliquant le soleil, l'adoration du soleil. Et tout ce qui concerne l'adoration pratiquée par cette organisation a à voir avec l'adoration du soleil. La marque de la bête n'est pas nouvelle. Apocalypse 20, verset 4, dit que ceux qui ne prendront pas la marque régneront avec le Christ pendant 1000 ans. La marque de la bête n'est pas quelque chose qui arrive à la toute fin de l'histoire. C'est quelque chose qui se passe depuis longtemps. La marque de la bête est une contrefaçon du signe que Dieu a donné à son peuple. Cette marque n'est pas nouvelle. Elle a été appliquée à divers degrés tout au long de l'histoire. Mais elle le sera de plus en plus dans un avenir proche. Je pense que nous pouvons voir comment, à notre époque technologique, les croyances des gens peuvent être suivies à la trace, comme jamais auparavant. Certains d'entre vous sont sur Internet. Vous vous êtes déjà dévoilés sur Internet. Désolé, mais c'est vrai. Et non seulement ils vous connaissent et savent ce que vous croyez, mais ils connaissent aussi tout le monde ici, d'une manière ou d'une autre. Ce que vous croyez est connu de tous. Peu importe que vous ayez un ordinateur ou non, quelqu'un a probablement mentionné votre nom, et nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre. Il existe des bases de données qui permettent cela, mais cela n'est pas la marque de la bête. En revanche, nos croyances représentent un rejet de la marque de la bête. Il y a les scans des yeux, la reconnaissance faciale, et qui sait quelle autre technologie pourrait voir le jour. Mais il faut bien voir la différence entre la marque elle-même et le mécanisme utilisé pour la faire respecter. Chacun sera contraint de choisir l'un ou l'autre camp. Au cours des dernières années, lorsque je donne des présentations du monde de demain, j'aborde très souvent, mais pas toujours, le chapitre 17 de l'Apocalypse et le verset 5, où il est dit que la prostituée est la mère des prostituées, et des abominations de la terre. Je dis toujours aux gens, je vais vous poser une question qui est probablement la plus importante que vous puissiez entendre aujourd'hui. J'ai l'habitude de présenter cette question un peu avant, et puis finalement, je dis, voici la question. Si vous comprenez qui est la grande prostituée, ce qui est assez explicite, alors qui sont les filles prostituées? Ce que je ne dis pas d'habitude, et je pense que je vais commencer à le dire, c'est que la façon dont vous répondez à cette question et l'endroit où vous allez à l'église déterminera si vous avez déjà pris la marque de la bête et si vous continuez à le faire. Chacun devra faire un choix. Même ceux qui ne sont pas religieux choisiront, en fait, d'être soumis à la puissance de la bête et à ses règles de conduite. Vous savez, nous avons parfois des jeunes qui grandissent dans l'Église et qui tombent amoureux de quelqu'un en dehors de l'Église et qui se marient. Et parfois, ce qui se passe, c'est que les gens qu'ils épousent en dehors de l'Église ne sont pas toujours des salauds ou des abrutis, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Ils ne sont pas nécessairement totalement méchants, mais ils ont leur religion. Et quand les enfants naissent de ces unions, à quelle église vont-ils en général? Déjà, on grandit dans l'église de Dieu et accepte la marque de la bête. C'est pourquoi je dis qu'il est important que les jeunes comprennent cela, parce qu'ils seront forcés de faire un choix dans un sens ou dans l'autre. Vous êtes obligés de faire un choix. Chacun d'entre nous doit choisir. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce qui s'est passé dans Daniel 11 n'est pas une histoire pour endormir les enfants. Il en va de même pour toutes les autres écritures que nous avons lues aujourd'hui, qui parlent de l'histoire depuis l'époque de Babylone. Il parle de l'histoire depuis l'époque de Babylone jusqu'au retour de Jésus-Christ, et lorsque nous mettons les éléments du tableau ensemble, il montre que nous devons prendre des décisions. J'espère donc que nous continuerons tous à prendre les bonnes décisions. La marque de la bête sera mise en vigueur plus sévèrement à l'avenir. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où elle est appliquée plus sévèrement, et d'autres où elle ne l'est pas. Mais la marque de la bête est déjà là, et son application est imminente.